L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Bienvenue, voici l'actualité de la semaine avec les partenaires des médias francophones publics, RFI, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, ici et la RTBF. Beaucoup de rencontres et de discussions ces derniers jours sur la situation en Ukraine. La guerre va-t-elle bientôt s'achever et à quelles conditions? Nadim Mubarak, le Premier ministre canadien, en a parlé avec d'autres dirigeants lors d'une visite à Kiev cette semaine.
Il n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine pour y maintenir la paix.
C'est la position de l'Europe aussi et de la Suisse. La Suisse qui rencontre quelques soucis avec sa défense en pleine recomposition des alliances sur le continent européen. Pierre-Ange Offat.
Une ministre sur le départ des fraudes dans l'industrie d'armement et les plus hauts fonctionnaires du département qui donnent leur sac, le Parlement s'inquiète pour la stratégie sécuritaire du pays.
Nous reviendrons aussi sur cet appel de Mohamed VI. Le roi du Maroc demande de ne pas sacrifier de moutons lors de la prochaine fête de l'Aïd El-Kébir. Nicolas Sûr.
Oui, le pays confronté à une 7e année de sécheresse consécutive a vu une forte diminution de son cheptel et une explosion des prix.
En France, l'affaire Betarame résonne désormais dans d'autres établissements scolaires des Hautes-Pyrénées. Violence et violence sexuelle à l'égard de nombreux élèves. Les langues se délient. Plusieurs établissements catholiques sont eux aussi pointés du doigt aujourd'hui. Enfin, les chemins de fer perturbés depuis le week-end dernier en Belgique. Une grève tournante de 9 jours menée par 2 syndicats indépendants sans l'aval des grands syndicats. Les perturbations ont été nombreuses cette semaine, Joël Meert.
Oui, l'impact de la grève a varié d'un jour à l'autre. Difficile pour les navetteurs de s'organiser dans ces conditions. Les conducteurs de train dénoncent notamment un départ à la pension qui va se faire de plus en plus tard.
Voilà donc pour les titres de cette semaine. La guerre en Ukraine au centre de nombreuses rencontres donc entre dirigeants cette semaine à Washington mais aussi à Kiev. Le Premier ministre canadien était en Ukraine. Justin Trudeau s'est rendu à Kiev, Nadi, comme d'autres dirigeants de l'Union européenne.
Oui, puisque 3 ans ont passé depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Les combats se poursuivent, des vies se perdent, la population souffre et donc cette visite de dirigeants se voulait une façon de réitérer leur appui indéfectible à Kiev au moment où celui des États-Unis se fait incertain. Justin Trudeau, une douzaine de dirigeants européens et le président turc ont donc participé à un sommet avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev lundi.
Et qu'est-ce qui a été discuté, Nadi?
Eh bien, les participants ont beaucoup parlé de paix et du président russe Vladimir Poutine, envers qui on ne peut pas faire confiance, a affirmé le président de la Finlande, voisine de la Russie. Un message clair à l'administration Trump, d'ailleurs absente du sommet, et qui a amorcé des rapprochements avec Moscou et multiplié les attaques contre Kiev. Mais si Washington souhaite une paix rapide, Moscou a déjà indiqué qu'en cas de négociation, les positions seront fermes. La Russie refuse notamment que l'Ukraine rejoigne l'OTAN et veut récupérer 5 régions entièrement ou partiellement occupées par son armée. La paix semble donc hors de portée et d'ici là, autant l'Europe que le Canada ont annoncé de nouveaux envois d'armes. Ottawa va notamment livrer 25 véhicules blindés légers à l'Ukraine, en plus de mettre à la disposition du pays 5 milliards de dollars provenant d'actifs russes saisis dans le cadre des sanctions économiques contre la Russie. Le Canada fournira aussi 4 simulateurs de vol pour les F-16 et offrira à l'Ukraine une subvention pour l'aider à protéger sa sécurité énergétique, puisque la Russie attaque son réseau électrique.
Et puis Justin Trudeau n'exclut pas, Nadi, l'envoi de troupes en Ukraine pour y maintenir la paix en cas d'accord.
Voilà, le Premier ministre Trudeau a déclaré qu'il n'exclut pas la possibilité de déployer des troupes canadiennes en Ukraine pour veiller au respect d'un éventuel traité de paix. On l'écoute.
Le Canada sera là pour l'Ukraine parce que défendre l'Ukraine, c'est pas juste défendre le territoire ukrainien ou la souveraineté ukrainienne. C'est de défendre les principes et les valeurs qui soutiennent toutes nos démocraties. Si Vladimir Poutine gagne ici en Ukraine, il met à risque toutes nos démocraties, toutes les démocraties dans le monde.
Maintenant, quel rôle pourrait jouer le Canada dans un éventuel processus de paix? Eh bien, la question est entière, puisque ce n'est pas Justin Trudeau qui prendra cette décision. Le Premier ministre, qui en était à son 4e voyage en Ukraine depuis le début de la guerre, quittera ses fonctions au cours des prochaines semaines.
Oui, et les Européens sont prêts eux aussi à l'envoi de troupes pour vérifier que la paix est bien respectée. C'est ce que dit aussi la France. C'est donc aussi la position du gouvernement belge et également de la Suisse à certaines conditions. La Suisse qui aura vécu une semaine compliquée, en tout cas pour son département de la Défense, Pierre-An, département dont la ministre est sur le départ.
De là à parler d'une fin de règne difficile pour Viola Amerd, il n'y a qu'un pas, jugé plus tôt lundi. Une autorité de surveillance publie un rapport dévastateur sur RUAG, l'entreprise d'armement détenue à 100% par la Confédération. On y parle de gestion défaillante, d'absence de transparence, mais aussi d'escroquerie et de corruption. Mardi, grâce à une fuite, la presse révèle les démissions du chef de l'armée et du chef des services de renseignement. Même s'il reste en poste encore quelques mois, ce département déjà chahuté est comme décapité.
Et donc les parlementaires en charge de la sécurité ont appris la nouvelle par les médias.
Oui, d'où une forme d'agacement renforcée encore par la posture qui s'est voulue rassurante de Viola Amerd le mercredi à l'issue de la séance du gouvernement. Chef du groupe libéral, Damien Cottier, ne cache pas son irritation.
Ce qui m'a le plus stupéfait aujourd'hui, c'est de voir la conseillère fédérale dire qu'elle ne comprend pas pourquoi on parle de crise. Très franchement, je crois qu'elle est la seule en Suisse qui ne comprend pas pourquoi on parle de crise. Tout le monde a l'air de partir. Les choses n'ont pas l'air de fonctionner. Il y a des rapports officiels qui le confirment. Ça ne veut pas dire que tout va mal, mais il n'y a quand même pas grand-chose qui va bien. Ça donne l'impression d'un navire sans capitaine, je dois vous dire.
Un navire sans capitaine ou pire, l'impression que les rats quittent le navire. Ancien diplomate, expert en politique de sécurité, Jean-Daniel Ruche est dépité par ses défaillances de management.
Peut-être qu'on aurait pu anticiper, désamorcer et puis éviter cette crise de confiance qui doit nous toucher tous. Déjà, tous ceux qui sont des citoyens soldats doivent se sentir trahis par leurs supérieurs. Aussi, tous les contribuables qui payent leurs impôts puis disent « mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces 30 milliards alors que ces gens ne savent pas gérer l'achat d'un drone ?»
Des drones achetés à Israël qui ne peuvent pas voler en cas de givre, plutôt fréquent chez nous. Bref, le nouveau ministre de la Défense qui sera élu le 12 mars prochain n'aura pas trop de temps pour se mettre dans le bain.
L'accent des autres.
C'est la fête la plus importante du calendrier musulman, l'Aïd el-Kébir, et c'est dans 3 mois. Mais cette année, beaucoup de Marocains ne la célébreront pas comme d'habitude. Face aux effets dévastateurs de la sécheresse, le roi du Maroc, Mohamed VI, demande, Nicolas, à la population de ne pas sacrifier de moutons.
Oui, dans un message lu à la télévision par le ministre des Affaires islamiques, le roi appelle les Marocains à renoncer au sacrifice. L'accomplir, dit Mohamed VI, est susceptible de porter préjudice à une grande partie des habitants du pays, particulièrement ceux qui ont des revenus limités. Le roi invoque les défis climatiques et économiques qui ont affaibli le cheptel national. Ce dernier a fondu de presque 40%. Conséquence, le prix de la viande s'est envolé et le sacrifice pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Le Maroc connaît sa 7e année consécutive de sécheresse qui a aussi provoqué une forte inflation sur l'huile d'olive très consommée dans le pays.
Et cette annulation du sacrifice, Nicolas, c'est un fait plutôt rare dans l'histoire du Maroc.
Oui, 3 fois seulement sous Hassan II, à chaque fois dans des contextes de sécheresse et de crise économique pour protéger les Marocains des effets d'une conjoncture difficile. Mohamed VI, lui, l'avait toujours maintenu, même pendant la pandémie de Covid, malgré la contraction de l'activité. C'est donc une recommandation très forte qu'il vient de faire en sa qualité de commandeur des croyants et de garant de la pratique religieuse au Maroc.
En France, cette fois, les suites de l'affaire Betaram dont on vous a parlé ici, des violences sexuelles, des violences tout court aussi pendant des décennies pour de nombreux élèves. Aujourd'hui, cette affaire résonne dans d'autres établissements scolaires des Hautes-Pyrénées, des lieux à la même réputation que Betaram pour redresser les enfants difficiles. Notre-Dame de Garaison notamment, établissement catholique situé dans le nord des Hautes-Pyrénées, mais aussi l'institution Saint-Pierre à Saint-Pé-de-Bigorre. Peu à peu, les langues se délient donc sur des violences similaires subies dans ces établissements, Fanny Darwart.
C'est en regardant un reportage sur Betaram à la télévision que Geoffroy a fait le lien avec son propre passé.
Je me suis mis un petit peu à récupérer des souvenirs en tête.
Élève à Garaison, autre établissement réputé pour enfants difficiles situé dans le nord des Hautes-Pyrénées, il décrit des situations similaires à celles évoquées ces derniers jours dans le dossier Betaram.
Lorsqu'il y avait des personnes qui pouvaient discuter pendant la nuit, on pouvait avoir soit des réprimandes comme pour faire la chaise, se mettre à genoux sur des réglés en fer, on pouvait avoir des baffes ou même nous-mêmes devoir donner des baffes. Quand on avait notre tour de douche, ben on pouvait avoir un surveillant qui pouvait rentrer d'une manière inopinée dans la douche.
Même situation pour François, élève dans les années 80 au lycée Saint-Pierre de Saint-Pé-de-Bigorre, à seulement quelques kilomètres de Betaram. Déjà à l'époque, les rumeurs circulaient.
On connaissait tous ce qui se passait à Betaram. Et on savait tous ce qui se passait à Garaison. Je savais que c'était une sorte de camp disciplinaire, quoi. Certains assouvissaient leurs fantasmes les plus bas, ça c'était connu. Des actes sexuels à Garaison, il y en avait aussi à Saint-Pé-de-Bigorre, mais personne n'en parlait.
La parole se libère donc dans ces autres Bétarames, comme en a présagé Alain Esquer, porte-parole des victimes, vendredi dernier.
Fanny Narvart pour Ici Béarn Bigorre. Enfin, l'actualité en Belgique aura été rythmée par une grève cette semaine. 9 jours de grève sur le rail belge depuis le week-end dernier et jusqu'à ce dimanche. 2 syndicats indépendants sont à l'origine du mouvement. Joël, les perturbations ont été nombreuses. Pas évident pour les navetteurs de s'organiser.
C'est vrai que les perturbations ont changé chaque jour. Quasi aucun train aux heures de pointe. Par contre, entre les grandes villes, c'était parfois 1 train sur 2, parfois moins. Alors les gens qui dépendent du rail pour aller travailler la trouvent plutôt mauvaise.
C'est vraiment catastrophe, quoi. Normalement, je devrais être déjà à Louvain, mais là, je suis encore bloqué à Otigny. Je dois faire carrément tout le tour de Bruxelles pour arriver au lieu de travail.
Alors, je vais devoir partir plus tôt du travail pour être sûr d'avoir mon bus à l'heure et de pouvoir rentrer chez moi à 1 heure décente quand même. J'aurais pu rester à la maison, faire du télétravail, mais bon, on m'oblige un petit peu à venir sur place parce qu'on a un peu besoin de moi.
Les grands syndicats cheminots ne sont pas à l'origine du mouvement. C'est une grève menée par 2 syndicats indépendants, mais qui représentent beaucoup de conducteurs de train. Parmi leurs revendications, le report progressif de l'âge à la pension.
Un conducteur de train et l'ensemble du personnel en général se lève à toute heure, du jour et de la nuit. On travaille les fériés, les week-ends. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on était pensionné à 55 ans. Il faut savoir aussi qu'on a énormément de responsabilités. On ne peut pas se permettre la moindre erreur, évidemment. Et donc, c'était entre guillemets un des avantages qui nous restait, c'était le fait de pouvoir partir plus tôt.
Le gouvernement veut progressivement faire passer la pension des cheminots de 55 à 67 ans. Mais ce n'est pas le seul grief des grévistes. Ils dénoncent aussi une flexibilité accrue qui leur est demandée et plus globalement des économies annoncées au sein des chemins de fer belges.
Joël Meert pour la RTBF. J'ajoute que 2 grands syndicats viennent d'annoncer à leur tour 18 jours de grève pour les 5 mois à venir. Une première grève est prévue le 17 mars prochain. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'Accent des Autres. Excellente fin de semaine.